Chapitre 9e. Les fiançailles d'Arlette. Il était dit qu'Antoine Fagerot serait pour Jean l'occasion de constantes surprises. Ses relations avec Arlette, leur mariage inattendu, la sympathie que leur témoignait l'aimé Lamarre, l'inconcevable achat de l'hôtel, autant de coups de théâtre, annoncés d'ailleurs comme des événements les plus normaux de la vie quotidienne. Ainsi, durant les jours où Denry s'était volontairement tenu à l'écart pour juger plus sainement une situation dont il ne devinait point d'ailleurs la gravité, l'adversaire avait profité magnifiquement des délais accordés et avancé fort loin sa ligne de bataille. Mais était-ce vraiment un adversaire? Et leur rivalité amoureuse à tous deux impliquait-elle réellement la perspective d'une bataille? Denry s'était contraint de s'avouer qu'il ne possédait aucune preuve certaine et qu'il se guidait d'après sa seule intuition. « À quand la signature du contrat de vente » dit-il en plaisantant. « À quand le mariage ?»« Dans 3 ou 4 semaines. » Denrys eut de la joie à le saisir à la gorge, cet intrus qui s'installait dans la vie selon son bon plaisir et contrairement à ses volontés à lui, Denrys. Mais il aperçut Arlette qui s'est élevée et qui apparaissait, pâle encore et toute fiévreuse, vaillante cependant. « Allons-nous-en, » dit-elle. « Je ne veux pas rester plus longtemps, et je ne veux pas non plus savoir ce qui s'est passé, et non plus que maman le sache. Plus tard, vous me raconterez cela. »« Plus tard, oui, » fit Denrys. « Mais en attendant, il faut que nous vous défendions mieux que nous ne l'avons fait contre les attaques. Et pour cela, il n'est qu'un moyen, c'est de nous concerter tous deux, monsieur Fagerot et moi. Le voulez-vous, monsieur? Si nous nous entendons, Arlette est hors de danger. »« Certes, » s'écria Fagerot. Et soyez sûr que pour ma part, je ne suis pas bien loin de la vérité. À nous deux, nous la découvrirons tout entière. Je vous dirai ce que je sais, et vous ne me cacherez rien de ce que vous savez. Rien. » Denrys lui tendit la main d'un geste spontané, auquel l'autre riposta par un geste non moins chaleureux. « Je vous ai mal jugé, monsieur, » fit Denrys. « L'homme qu'a choisi Arlette ne peut être indigne d'elle. » L'alliance fut conclue. Jamais Denrys n'avait donné une poignée de main où il n'y eut plus de haine inassouvie et un tel désir de vengeance. Et jamais cependant, adversaire n'avait accueilli ses avances avec plus de cordialité et de franchise. Ils redescendirent tous trois devant le garage. Arlette, trop fatiguée pour marcher, pria Fagerot de chercher une voiture. Et tout de suite, profitant de ce qu'elle était seule avec Jean Denrys, elle lui dit « J'ai des remords envers vous, mon ami. J'ai fait beaucoup de choses sans vous en prévenir. » Et des choses qui ont dû vous être désagréables. Pourquoi désagréable, Arlette? Vous avez contribué à sauver M. de Mélamar et sa sœur. N'était-ce pas mon intention également? D'autre part, Antoine Fagerot vous a fait la cour et vous avez accepté de vous fiancer à lui. C'est votre droit. Elle se tut. La nuit tombait et Denrys voyait à peine son joli visage. Il demanda : Vous êtes heureuse, n'est-ce pas? Arlette affirma : « Je le serais tout à fait si vous me gardiez votre amitié. »« Ce n'est pas de l'amitié que j'ai pour vous, Arlette. » Comme elle ne répondait pas, il insista. « Vous comprenez bien ce que je veux dire, n'est-ce pas, Arlette ?»« Je le comprends, » murmura-t-elle, « mais je ne le crois pas. » Et vivement, Denry se rapprochant, elle reprit. « Non, non, ne parlons pas davantage. »« Comme vous êtes déconcertante, Arlette. Je vous l'ai dit dès les premiers jours. » Et j'éprouve encore près de vous cette impression d'une chose cachée, d'un secret. Un secret qui se mêle à tous ceux qui rendent cette affaire mystérieuse. « Je n'ai aucun secret, » affirma-t-elle. « Si, si, et je vous en délivrerai. De même que je vous délivrerai de vos ennemis. Je les connais tous déjà. Je les vois agir. Je les surveille. L'un d'eux, surtout, Arlette, le plus dangereux et le plus fourbe. » Il fut sur le point d'accuser Fagerot, et dans la pénombre, il sentit qu'Arlette attendait ses paroles, mais il ne les prononça point, car l'épreuve lui manquait. « Le dénouement est proche, mais je ne dois pas le brusquer. Suivez votre route, Arlette. Je ne vous demande qu'une promesse, c'est de me revoir autant que cela sera nécessaire, et de vous arranger pour que je sorte su, comme vous l'êtes, chez M. et Mme de Mélamar. Je vous le promets. » Fagerot revenait. « Un mot encore, » dit Jean. « Vous êtes bien mon ami. » Du plus profond de mon cœur. Alors à bientôt, Arlette. » Une voiture stationnait au bout de l'allée. Fagerot et Denrys se serrèrent de nouveau la main et Arlette partit avec son fiancé. « Va, mon bonhomme, » se dit Jean, pendant qu'il s'éloignait. « Va, j'en ai maté de plus difficile que toi. Et je jure Dieu que tu n'épouseras pas la femme que j'aime, que tu n'habiteras pas l'hôtel Mélamar, et que tu rendras le corselet de diamants. » 10 minutes après, Béchou surprenait Denris tout pensif au même endroit. Le brigadier accourait, essoufflé, en compagnie de 2 acolytes. « J'ai un tuyau, de la rue Lafayette. Laurence Martin a dû venir dans ces parages où elle a loué, il y a quelque temps, une sorte de remise. « Tu es prodigieux, Béchou, » fit Denris. « Pourquoi ?»« Parce que tu finis toujours par arriver au but. Trop tard, il est vrai, enfin, tu y arrives. Que veux-tu dire ?» Rien, sinon que tu dois poursuivre ces gens-là sans répit, Béchou. C'est par eux que nous serons renseignés sur leur chef.
Ils ont donc un chef?
Oui, Béchou, et qui a pour lui une arme terrible.
Quoi?
Une gueule d'honnête homme.
Antoine Fagerot?
Alors tu soupçonnes donc toujours ce type-là?
Je fais plus que de le soupçonner, Béchou.
Eh bien moi, le brigadier Béchou, ici présent, je te déclare que tu te mets le doigt dans l'œil. Je ne me trompe jamais sur la physionomie des gens.
« Même sur la mienne, » ricanait Denris en le quittant.
L'assassinat du conseiller municipal de Courceux et les circonstances où il se produisit remuèrent l'opinion publique. Lorsqu'on sut par les révélations de Béchou que l'affaire se rattachait à celle du Corselet, que la boutique de la revendeuse à la toilette que l'on recherchait avait comme locataire en nom la demoiselle Laurence Martin, et que cette Laurence Martin était celle-là même à laquelle M. Le Courceux avait donné audience, tout l'intérêt, un moment assoupi, se réveilla. On ne parla plus que de Laurence Martin et du vieux qui boitait, complice et assassin. Les raisons du crime demeurèrent inexplicables, car il fut impossible de savoir exactement sur la rédaction de quel rapport Laurence Martin avait voulu influer par une offre d'argent. Mais tout cela semblait si bien combiné et par des gens si exercés dans la pratique du crime qu'on ne douta point que ce fussent les mêmes qui avaient agencé l'affaire du corselet de diamants, et les mêmes aussi qui avaient machiné le complot mystérieux contre M. de Mélamar et sa sœur. Laurence, le vieillard, la revendeuse, les 3 associés redoutables, devinrent célèbres en quelques jours. Leur arrestation d'ailleurs paraissait imminente. Denris revit Arlette chaque jour à l'hôtel Mélamar. Gilberte n'oubliait pas l'audace avec laquelle Jean l'avait fait évader, et le rôle qu'il y avait joué. Il reçut donc, sur la recommandation d'Arlette, le meilleur accueil auprès d'elle et auprès du comte. Le frère et la sœur avaient repris confiance dans la vie, quoique leur résolution de quitter Paris et de vendre leur hôtel fût définitive. Ils éprouvaient le même besoin de partir et considéraient comme un devoir de faire au destin hostile le sacrifice de la vieille maison familiale. Mais ce qui restait encore de leurs longues inquiétudes se dissipait au contact de la jeune fille et de leur ami Fagerot. Arlette apportait dans cette demeure, pour ainsi dire abandonnée depuis plus d'un siècle, sa grâce, sa jeunesse, la clarté de ses cheveux blonds, l'équilibre de sa nature et l'élan de son enthousiasme. Elle s'était fait aimer, à son insu et tout naturellement, de Gilberte et du comte, et Denris comprit pourquoi, dans leur désir de la rendre heureuse, ils avaient cru concourir à une bonne action, en appuyant les prétentions de Fagerot, de celui qu'ils considéraient comme leur bienfaiteur. Quant à lui, Fagerot, très gai, toujours de bonne humeur, expansif et insouciant, il exerçait sur eux une influence profonde, car l'être semblait subir au même point. Il était vraiment le type de l'homme qui n'a pas d'arrière-pensée et qui s'abandonne à la vie en toute confiance et en toute sécurité. Aussi, avec quelle attention anxieuse Denris étudiait la jeune fille. Il y avait entre elle et lui, malgré leur conversation affectueuse devant le garage de Levallois, une certaine gêne que Jean n'essayait pas de combattre. Et cette gêne, il s'obstinait à croire qu'Arlette la conservait même en dehors de lui, et qu'elle ne se laissait pas aller au bonheur naturel d'une femme qui aime et dont le mariage approche. On n'eût point dit qu'elle envisageait l'avenir à ce point de vue, et que cet hôtel de Mélamar, qu'elle allait habiter, fut sa maison d'épouse. Lorsqu'elle en parlait avec Fagerot, et c'était tout le sujet de leur conversation, il semblait aménager le siège social d'une œuvre philanthropique. C'est qu'en effet, l'hôtel Mélamar, selon les projets d'Arlette, devenait le foyer de la caisse d'Hôtal. Là se réunirait le conseil d'administration. Là, les protégés d'Arlette auraient leur salle de lecture. Le rêve d'Arlette,
mannequin de chez Chernitz, se réalisait. Il n'était jamais question des rêves d'Arlette, jeune fille. Fagerot était le premier à en rire. « J'épouse une œuvre sociale, » disait-il. « Je ne suis pas un mari, mais un commanditaire. » Un commanditaire. Ce mot, chez Denris, dominait toutes ses pensées dans la révolution autour d'Antoine Fagerot. De si vastes projets, achat d'hôtels, commandite, installation, révélaient une grosse fortune. D'où venait cette fortune? Les renseignements recueillis par le brigadier Béchoux auprès du consulat et de la légation argentine établissaient qu'effectivement, une famille Fagerot s'était installée à Buenos Aires une vingtaine d'années auparavant et que le père et la mère étaient morts au bout de 10 ans. Mais ces gens-là ne possédaient rien, et l'on avait dû rapatrier leur fils Antoine, un tout jeune adolescent à cette époque. Comment cet Antoine, que depuis les Mélamar avaient connu assez pauvre, s'était-il enrichi soudain? Comment, sinon par le vol récent des merveilleux diamants de Van Houben? L'après-midi et le soir, les deux hommes ne se quittaient pour ainsi dire pas. Chaque jour, ils prenaient le thé chez les Mélamar. Tous deux pleins d'entrain, allègres et démonstratifs, ils se prodiguaient les marques de leur amitié et de leur sympathie, se tutoyaient à l'occasion et ne tarissaient pas d'éloges l'un sur l'autre. Mais de quel œil frémissant Denris épiait son rival! Et comme il sentait parfois le regard aigu de Fagerot qui le fouillait jusqu'au fond de l'âme. De l'affaire entre eux, il n'était jamais question. Pas un mot de cette collaboration que Denris avait réclamée et qu'il eût refusée si l'autre l'avait offerte. En réalité, c'était un duel implacable avec des assauts invisibles, des ripostes sournoises, des feintes et une égale fureur contenue. Un matin, Denris avisa, aux environs du square Laborde, bras dessus, Fagerot et Van Houben, qui paraissaient au mieux. Ils suivirent la rue Laborde et s'arrêtèrent devant une boutique fermée. Du doigt, Van Houben montra l'enseigne « Agence Barnett et compagnie ». Ils s'éloignèrent en parlant avec animation. « C'est bien cela, » se dit Jean. « Les deux fourbes se sont accoquinés. Van Houben me trahit et raconte à Fagerot que Denris n'est autre que l'ex-Barnett. Or, un type de la force de Fagerot ne peut manquer, à bref délai, d'identifier Barnett et Arsène Lupin. En ce cas, il me dénonce. Qui démolira l'autre, Lupin ou Fagerot ? » Cependant, Gilberte prenait ses dispositions de départ. Jeudi, le 28 avril, et l'on était au 15, les Mélamar devaient abandonner leur hôtel. Monsieur de Mélamar signerait le contrat de vente et Antoine donnerait un chèque. Arlette préviendrait sa mère, les bans seraient publiés et le mariage aurait lieu vers le milieu de mai. Un peu de temps encore s'écoula. Une telle exécration lançait l'un contre l'autre Denris et Fagerot que leur camaraderie affectée n'y résistait pas toujours. Malgré eux, les deux hommes se laissaient aller par instant à prendre posture d'adversaire. Fagerot eut l'audace d'amener Van Houben au thé des Mélamar, et Van Houben marqua la plus grande froideur vis-à-vis de Jean. Il parla de diamants et déclara qu'Antoine Fagerot était sur la piste du voleur. Et il dit cela avec un tel accent de menace que Denris se demanda si le dessein de Fagerot n'était pas de le mettre en cause, lui, Denris. La bataille ne pouvait tarder. Denris, dont les idées s'appuyaient sur une réalité de plus en plus solide, en avait fixé la date et l'heure. Mais ne serait-il pas devancé? Un fait dramatique se produisit qui lui parut de mauvais augure à ce sujet. Il avait pris à sa solde le portier du Mondial Palace, où demeurait Fagerot, et il savait par lui, et par Béchoux d'ailleurs, dont la surveillance ne se démentait pas, que Fagerot ne recevait jamais ni lettres ni visites. Un matin, néanmoins, Denris fut averti qu'on avait perçu quelques mots d'une communication téléphonique très courte, échangée entre Fagerot et une femme. Rendez-vous était pris pour le soir à 11h30 dans le jardin du Champ de Mars, à la même place que la dernière fois. Le soir, dès 11h, Jean Denris rôda au pied de la tour Eiffel et dans les jardins. Il faisait une nuit sans lune et sans étoiles. Il chercha longtemps et ne rencontra pas Fagerot. Ce n'est guère avant minuit qu'il avisa sur un banc une masse épaisse qui lui parut être une femme ployée en deux, la tête presque sur les genoux. Hé, hey, dis donc, cria Jean, on ne dort pas comme ça en plein air. Tenez, voilà qu'il pleut.
La femme ne remuait pas. Il se pencha, sa lampe électrique à la main, vit une tête sans chapeau, des cheveux gris et une mante qui traînait sur le sable. Il souleva la tête qui retomba aussitôt. Il avait eu le temps de reconnaître, toute pâle, de la pâleur d'une morte, la marchande à la toilette, la sœur de Laurence Martin. L'endroit se trouvait à l'écart des allées centrales, au milieu de massifs mais non loin de l'école militaire. Or, sur l'avenue passaient deux agents cyclistes dont il attira l'attention d'un coup de sifflet et qu'il appela au secours. « C'est bête ce que je fais, se dit-il, à quoi bon m'occuper de cela ?» Dès que les agents se furent approchés, il leur expliqua sa découverte. On dévêtit un peu la femme et l'on aperçut le manche d'un poignard planté au-dessous de l'épaule. Les mains étaient froides, la mort devait remonter à 30 ou 40 minutes. Le sable alentour était piétiné, comme si la victime s'était débattue. Mais la pluie qui commençait à tomber fortement effaçait les traces. « Il faudrait une automobile, » observa l'un des agents, « et la porter au poste. » Jean s'offrit. « Amenez le corps jusqu'à l'avenue, moi je reviens avec une voiture, la station est tout près. » Il se mit à courir. Mais la station, au lieu de monter dans le taxi, il se contenta d'avertir le chauffeur et de l'envoyer au-devant des agents. Pour lui, il s'éloigna du côté opposé à vive allure. « Pas la peine de faire du zèle. On me demanderait mon nom. Je serai convoqué à l'instruction. Que de tracas pour un homme paisible. » Mais qui diable a tué cette revendeuse? Antoine Fagerot, à qui elle avait donné rendez-vous? Laurence Martin, qui a voulu se débarrasser de sa sœur? Il y a une chose de plus en plus évidente, c'est que la brouille est entre les complices. Avec cette hypothèse, tout s'explique. La conduite de Fagerot, ses plans, tout. Le lendemain, les journaux de midi relatèrent en quelques lignes l'assassinat d'une vieille femme dans les jardins du Champ de Mars. Mais le soir, double coup de théâtre, la victime n'était autre que la marchande à la toilette de la rue Saint-Denis, c'est-à-dire la complice de Laurence Martin et de son père. Et dans une de ses poches, on avait recueilli un bout de papier qui portait ce nom, tracé d'une écriture grossière et visiblement déguisée, Arse Lupin. En outre, les agents cyclistes racontèrent l'épisode de l'homme trouvé près du cadavre et qui s'était prudemment esquivé. Aucun doute, Arsène Lupin se trouvait mêlé à l'affaire du corselet de diamants. C'était absurde et le public ne manqua pas de réagir. Arsène Lupin ne tuait jamais et n'importe quel misérable pouvait avoir inscrit le nom d'Arsène Lupin. Mais quel avertissement pour Jean Denrys! Combien le fait d'évoquer la silhouette de Lupin prenait de signification. La menace était directe. Abandonne la partie, laisse-moi libre, sinon je te dénonce, car j'ai en main toutes les preuves par lesquelles on remonte de Denrys à Barnett et de Barnett à Lupin. Mieux que cela, ne suffisait-il pas de prévenir le brigadier Béchoux? Béchoux, toujours inquiet, qui ne subissait qu'avec impatience l'autorité de Denrys et qui saisirait avidement l'occasion d'une aussi magnifique revanche. Or, c'est ce qu'il advint. Sous prétexte de poursuivre l'enquête relative aux diamants, Antoine Fagerot, de même qu'il avait introduit Van Hooven, amena Béchoux chez les Mélamar, et l'attitude gauche et compassée du brigadier avec Denrys ne pouvait laisser place à la moindre hésitation. Pour Béchoux, Denrys devenait brusquement Lupin. Seul Lupin avait pu accomplir les exploits que Béchoux avait vu Barnett accomplir, et seul Lupin avait pu rouler Béchoux comme Béchoux avait été roulé. Béchoux devait donc, sans retard, et d'accord avec ses chefs de la préfecture, préparer l'arrestation de Jean Denrys. Ainsi, chaque jour, la situation empirait. Fagerot, qui avait paru soucieux et désemparé à la suite de l'aventure du Champ de Mars, recouvrait son humeur habituelle, mais, volontairement ou non, prenait vis-à-vis de Jean une sorte de désinvolture dont l'arrogance se déguisait mal. On le sentait triomphant, comme un homme qui n'a plus qu'à lever le doigt pour que se déclenche tout le mécanisme de la victoire. Le samedi qui précéda le contrat de vente, il bloqua Denrys dans un coin et lui dit « Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de tout cela ?»«
De tout cela ?»«
Oui, de cette intervention de Lupin. »«
Bon, je suis plutôt sceptique à cet égard. »
Tout de même, il y a des charges contre lui. Il paraît qu'on le file de près et que sa capture n'est plus qu'une question d'heure.
Sait-on jamais? Le personnage est malin. Si malin qu'il soit, je ne sais pas comment il pourra s'en tirer.
Je vous avoue que je ne me tourmente pas pour lui.
Moi non plus, remarquez-le. Je parle en spectateur désintéressé.
À sa place.
À sa place. Je filerai à l'étranger.
Ce n'est pas le genre d'Arsène Lupin.
Alors j'accepterai une transaction.
Denry s'étonna.
Avec qui ?
À propos de quoi ?
Avec le possesseur des diamants.
Ma foi, fit Denry en riant, étant donné ce qu'on sait de Lupin, je crois que les bases de transaction seraient faciles à déterminer.
Et ces bases ?
Tout pour moi, rien pour toi.
Fajot sursauta, croyant une apostrophe directe.
« Hein, que dites-vous ?
Je prête à Lupin une formule de réponse conforme à ses habitudes.
Tout pour Lupin, rien pour les autres. »
Fajot rit de bon cœur à son tour, et sa physionomie était si loyale que Denris s'irrita. Rien ne lui était plus désagréable que l'impression bon enfant qui se dégageait d'Antoine et qui attirait au jeune homme toutes les sympathies. Et l'anomalie apparaissait cette fois au moment même où Fagerot se croyait assez fort pour agir en provocateur. Denris jugea bon d'engager le fer sans plus tarder, et passant subitement du ton de la plaisanterie au ton d'hostilité, prononça « Pas de phrase entre nous, ou du moins le minimum, trois ou quatre suffisent. J'ai Marlette, vous aussi. Si vous persistez à l'épouser, je vous démolis. »
Antoine parut stupéfait de l'algarade. Cependant, il répliqua sans se démonter « J'ai Marlette et je l'épouserai.
Donc, refus. »
« Refus. Il n'y a aucune raison pour que je subisse des ordres que vous n'avez, vous, aucun droit à me donner. »
« Soit. Choisissons le jour de la rencontre. La signature du contrat de vente a lieu mercredi prochain, n'est-ce pas ?»«
Oui, l'après-midi, à 6h30.
J'y serai. »«
Ah, quel titre ?»«
Monsieur de Mélamar et sa sœur partent le lendemain. J'irai leur dire adieu. »
Vous serez certainement le bienvenu.
Donc, à mercredi.
À mercredi.
Au sortir de cet entretien, Denris ne tergiversa pas. Restait 4 jours. À aucun prix, il ne voulait courir le moindre risque durant cette période. Il fit donc un plongeon dans les ténèbres. On ne le vit plus nulle part. 2 inspecteurs de la sûreté déambulèrent devant son rez-de-chaussée. D'autres surveillèrent la maison d'Arlette Mazol. D'autres celle de Régine Aubry. D'autres, la rue qui bordait le jardin des Mélamar. Aucune trace de Jean Denris. Mais, durant ces 4 jours, caché dans une de ces retraites bien aménagées qu'il possédait à Paris, ou bien camouflé comme lui seul savait le faire, avec quelle fièvre il s'occupa de la bataille finale, concentrant toute son attention sur les derniers points qui demeuraient obscurs et agissant ensuite selon le résultat de sa méditation. Jamais il n'avait senti plus vivement la nécessité d'être prêt et l'obligation, en face d'un adversaire, d'envisager les pires éventualités. 2 expéditions nocturnes lui procurèrent certaines indications qui lui manquaient. Son esprit discernait à peu près nettement toute la chaîne des faits et toute la psychologie de l'affaire. Il connaissait ce qu'on appelait le secret des Mélamar et dont les Mélamar n'avaient entreaperçu qu'une face. Il savait la raison mystérieuse qui donnait tant de force aux ennemis du comte et de sa sœur. Et il voyait clairement le rôle joué par Antoine Fagerot.
« Ça y est » s'écria-t-il le mercredi à son réveil. « Mais je dois bien savoir que lui aussi il doit se dire « ça y est » et que je peux me heurter à des périls que je ne soupçonne pas.
Advienne que pourra. »
Il déjeuna de bonne heure, puis se promena.
Il réfléchissait encore. Ayant traversé la Seine, il acheta un journal de midi qui venait de paraître, le déplia machinalement et tout de suite fut attiré par un titre sensationnel en tête de colonne. Il s'arrêta et lut posément.
Le cercle se rétrécit autour d'Arsène Lupin et l'affaire évolue dans le nouveau sens que laissaient prévoir les derniers événements. On sait qu'un monsieur de tournure jeune et vêtu avec élégance cherchait, il y a quelques semaines, des renseignements sur une marchande à la toilette qu'il tâchait de retrouver. Cette femme, dont il se procura l'adresse, n'était autre que la revendeuse de la rue Saint-Denis. Or, le signalement de ce monsieur correspond exactement au signalement de l'individu que les agents cyclistes ont surpris au Champ de Mars, près du cadavre, et qui s'est enfui sans avoir donné signe de vie. À la préfecture, on est persuadé qu'il s'agit d'Arsène Lupin. Voir à la 3e page.
et à la troisième page, en dernière heure, cet entrefilet signé un lecteur assidu. Le monsieur élégant que l'on poursuit s'appellerait, selon certaines informations, Denrys. Serait-ce le vicomte Jean Denrys, ce navigateur qui, soi-disant, a fait le tour du monde en canot automobile et dont on a fêté l'arrivée l'année dernière? D'autre part, on est fondé à croire que le célèbre Jim Barnett, de l'agence Barnett et Compagnie, ne faisait qu'un avec Arsène Lupin. S'il en est ainsi, nous pouvons espérer que la trinité Lupin-Barnett-Denrys n'échappera pas longtemps aux recherches, et que nous serons débarrassés de cet insupportable individu. Pour cela, ayons confiance dans le brigadier Béchou. Denrys replia rageusement le journal. Il ne doutait pas que les conclusions du lecteur assidu ne provinssent d'Antoine Fagerot, lequel tenait toutes les ficelles de l'aventure et dirigeait le brigadier Béchou. « Voyons, grinça-t-il, tu me le paieras, et un bon prix. » Il se sentait mal à l'aise, gêné dans ses mouvements, et déjà comme traqué. Les passants avaient l'air de policiers qu'il dévisageait. N'allait-il pas s'enfuir, comme le lui avait conseillé Fagerot? Il hésita, songeant aux trois moyens de fuite qu'il avait toujours à sa disposition, un avion, une auto, et, toute proche sur la Seine, une vieille péniche. « Non, c'est trop bête, » se dit-il. « Un type comme moi ne flanche pas à l'heure de l'action. Ce qui est vexant, c'est que je vais être obligé, en tout état de cause, de lâcher mon joli nom de Denrys. Dommage, il était allègre et bien français. En outre, me voilà fichu comme gentleman navigateur. » Inconsciemment néanmoins, obéissant à sa nature, il inspectait la rue contiguë au jardin. Personne, aucun agent. Il contourna l'hôtel. Rue Durfay, rien de suspect non plus. Il pensa que Béchou et Fagerot, ou bien ne l'avaient pas cru capable d'affronter le danger, et ce devait être le désir secret de Fagerot, ou bien avaient pris toutes leurs mesures à l'intérieur de l'hôtel. Cette idée le cingla. Il ne voulait pas qu'on l'accusât de lâcheté. Il tâta ses poches, pour être bien sûr qu'il n'y avait pas laissé par mégarde un revolver ou un couteau, ustensile qu'il qualifiait de néfaste. Puis il marcha vers la porte cochère. Une hésitation suprême, cette façade des communs, morose et sombre, ressemblait à un mur de prison. Mais la vision souriante, un peu ingénue, un peu triste, d'Arlette, lui traversa l'esprit. Allait-il livrer la jeune fille sans la défendre? Il plaisanta en lui-même. « Non, Lupin, n'essaie pas de te donner le change. Pour défendre Arlette, tu n'as pas besoin d'entrer dans la souricière et de risquer ta précieuse liberté, non. Tu n'as qu'à faire tenir au compte une toute petite missive, où tu lui révéleras le secret des Mélamar et le rôle qu'Antoine Fagerot joue là-dedans. Quatre lignes suffisent, pas une de plus. Mais en réalité, rien ne t'empêchera de sonner à cette porte, pour la raison bien simple que cela t'amuse. C'est le danger que tu aimes, c'est la lutte que tu cherches. C'est le corps à corps avec Fagerot que tu veux. Tu succomberas peut-être à la tâche, car ils sont prêts à te recevoir, les gredins. Mais avant tout, cela te passionne de tenter la belle aventure et d'affronter l'ennemi sur son terrain, sans armes, seul et le sourire aux lèvres. » Il sonna.